Élie Abergel pour le journal. Bonjour Élie.
Bonjour à tous. L'environnement s'impose comme la préoccupation centrale de ces prochaines années. Et pourtant, l'écologie n'est pas une priorité pour de nombreux projets en France. C'est ce que dit l'autorité environnementale. Décryptage avec Sophie Bécherel. Malgré l'humiliation à la présidentielle, les Républicains résistent à la danse du ventre de la Macronie. Un seul débauchage de députés pour les législatives pour le moment. En Ukraine, les femmes, les enfants, les personnes âgées ont réussi à quitter l'usine d'Azovstal de Mariupol, poche de résistance et refuge pour les derniers qui restent dans la ville. Et puis, Toulouse se qualifie en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Au tir au but, c'est tellement rare que même les joueurs toulousains étaient un peu déboussolés, vous l'entendrez.
Les invités de cette matinale, ça commencera dans 20 minutes, Karine, vous recevrez
l'ambassadeur de la gastronomie française, Guillaume Gomez, pour l'ouverture ce week-end à Dijon d'une cité internationale de la gastronomie et du vin. Rendez-vous avec lui à 7h50.
Et puis à 8h20, à propos des célébrations du 9 mai demain en Russie, quel sens aura le discours de Vladimir Poutine à Moscou? On va en parler avec une spécialiste de la Russie, Marie Mindras.
France Inter.
Emmanuel Macron promet donc de léguer une planète plus vivable et une France plus forte.
Ces mots hier pendant la cérémonie d'investiture du président de la République à l'Élysée. Le souci de l'écologie alors que les alertes climatiques se multiplient. L'autorité environnementale par exemple a rendu un avis inquiétant sur les projets publics comme privés qui voient le jour, un hôpital à Saint-Ouen, une ligne TGV en Occitanie entre autres. Sur les 172 dossiers instruits par cette instance de contrôle indépendante, le respect de la biodiversité semble bien loin, Sophie Bécherel.
Sur la forme, les dossiers sont plus solides, note l'autorité environnementale. Mais sur le fond, la préoccupation écologique est encore trop faible. Qu'il s'agisse d'un nouveau quartier en ville, d'une station de montagne, de la gestion des nitrates ou d'un aménagement du littoral, les porteurs de projets sont par exemple trop peu attentifs à la question de l'eau, note le président de l'autorité, Philippe Ledanvic.
Il y a des déséquilibres importants sur certains grands bassins hydrographiques en termes de ressources en eau. Ces déséquilibres vont être aggravés par les changements climatiques et pour autant, il n'y avait pas vraiment de trajectoire des volumes d'eau mobilisables. En clair, on n'a pas eu le sentiment que ces plans initiaient, encourageaient une vraie transition agroécologique.
La plupart des dossiers font également l'impasse sur le bilan carbone. Quant à la question énergétique, elle est très largement négligée.
La vraie déception, je dois le dire, c'est que les objectifs de consommation énergétique sont vraiment définis à minima au sens où le niveau d'ambition est vraiment pas très élevé. On trouve encore beaucoup de dossiers dans lesquels la réglementation thermique est utilisée en référence, c'est 2012. On est loin de la basse consommation, on est loin de l'énergie positive. C'est vraiment une vraie carence.
Pour l'autorité environnementale, il est inquiétant de voir que l'adaptation imposée par le dérèglement climatique est souvent impensée. Exemple, dans une future ZAC, le dossier mentionne les îlots de chaleur, mais ne propose rien pour les contrer.
Et dans une tribune dans le JDD du jour, Jean-Marc Jancovici, le cinéaste Cyril Dion et 16 autres personnalités demandent que les prochains ministres soient formés à l'écologie. Dans cette lettre à Emmanuel Macron, le président de The Shift Project, un groupe qui élabore des solutions contre le bouleversement climatique, appelle à ce que la transition écologique soit une priorité. Le dérèglement climatique sera sans doute au menu des débats de campagne pour les élections législatives de juin. Côté majorité, près de 300 candidats sont investis selon la dernière liste publiée hier. Et malgré la déroute de Valérie Pécresse à la présidentielle, les Républicains restent fidèles à leur parti, résistent aux yeux doux des marcheurs. Maxence Lambrecq, pour l'instant, un seul député LR bascule dans la Macronie.
Il s'agit d'un des porte-paroles de la campagne de Valérie Pécresse, Robin Reda, candidat dans l'Essonne sous la nouvelle bannière Ensemble donc. Autrement, la Macronie laisse encore quelques cases vides, personne pour l'instant face au patron des députés LR Damien Abad, face à l'ancien ministre socialiste Guillaume Garot, mais c'en est fini en revanche pour une dizaine d'autres députés que l'on imaginait basculer, ils auront un adversaire. Dans le Nord, Éric Dupond-Moretti devait se lancer, son remplaçant n'a pas encore été trouvé. À Lens, ce n'est finalement pas la ministre Agnès Pannier-Runacher qui s'attaque à ce fief du RN, mais son compagnon, ex-député socialiste. Juste à côté, face à Marine Le Pen, la majorité ne croit pas en ses chances en voyant une jeune femme de 30 ans quasi novice en politique. Dans cette liste, tous les lieutenants d'Emmanuel Macron qui repartent au combat, Richard Ferrand, Stanislas Guérini, Christophe Castaner, Jean-Baptiste Moreau, le chef de l'État a aussi trouvé de la place pour son témoin de mariage et conseiller à Matignon, Marc Ferracci, pour celui qui a piloté le programme de sa campagne, David Amiel, pour un conseiller de l'ombre bien connu à droite, Jérôme Peyrat, de quoi disposer de puissants et fidèles relais à l'Assemblée en cas de victoire.
Une victoire que la gauche voudrait bien empêcher, les gauches plutôt unies sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Hier, premier tour de force de cette alliance du PS, des Verts, du PCF et des Insoumis, c'était dans le nord de Paris, à Aubervilliers. 1500 personnes ont assisté au lancement de cette nouvelle formation politique.
En Ukraine, enfants, femmes et personnes âgées ont enfin pu quitter l'enfer de l'usine Azovstal.
Terrés sous les bombes au fond de ce complexe sidérurgique depuis plus de deux mois, parfois la dernière poche de résistance dans la ville martyre de Mariupol, décimée par l'armée russe. Les évacués sont acheminés à Zaporizhia où le groupe Azovstal a installé une cellule médico-psychologique pour les prendre en charge. Mathilde de Huimy, les rescapés peuvent enfin y parler de leur trauma.
Deux cas ont marqué Marina quand elle a reçu les premiers rescapés d'Azovstal. Un homme d'abord n'arrivait plus à parler, soudain pris de violentes diarrhées, troubles psychosomatiques, résume-t-elle. Il a tenu 65 jours à sortir sous les bombardements intenses pour chercher de l'eau.
Cet homme était en état de stress permanent. Dans ces moments-là, votre corps reste en alerte et après, tout se relâche et vous avez des problèmes très sérieux.
La psychothérapeute prend aussi régulièrement des nouvelles de cette adolescente de 13 ans qui a basculé trop vite dans le monde des adultes.
Elle m'a dit, j'ai dit adieu à la ville de la mort. Ça m'a tellement frappée, mais je sais qu'à cet âge-là, quand on prend une telle décision, on revient rarement dessus.
Les évacués d'Azovstal sont sortis vivants de Mariupol et n'ont pas toujours conscience de leur détresse psychologique, appuie son confrère Valérie.
On travaille avec des gens traumatisés, car presque tous ont perdu des proches ou leur maison. Physiquement, ils sont ici avec moi, mais mentalement, ils sont toujours là-bas. Il faut réduire les risques de troubles post-traumatiques.
La culpabilité du survivant qui a aussi laissé derrière lui des hommes toujours coincés dans le complexe d'Azovstal.
Et sur le site, les combats continuent toujours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe à une réunion des dirigeants du G7 en visioconférence. Aujourd'hui, une date chargée d'histoire, ce 8 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le fracas des armes se fait entendre à nouveau à l'est de l'Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz estime que cette invasion russe rend la cohésion du G7 plus importante que jamais.
En France, dans le nord de la Dordogne, des fêtards sont toujours vaillants ce matin et pourtant ça fait plus de 36 heures qu'ils participent à une rave party.
Toujours debout depuis avant-hier soir, vendredi, rave party sur une ancienne mine d'or. Plus de 800 voitures sont venues de toute la France, jusqu'à 3000 personnes présentes. Un rassemblement pour ce que les participants présentent comme la teuf de l'année, Marc Bertrand.
Les voitures, les tentes, les caravanes sont garées par centaines sur la grande tourbière remplie d'herbes hautes. Il y a des jeunes partout, allongés par terre ou qui dansent devant l'énorme mur de son. Julien a 41 ans, il arrive de Bretagne. Torse nu, lunettes de soleil, il agite la tête au son de la musique.
Ouais, en gros, c'est quasiment la teuf de l'année. Et de partout en France, tout le monde demandait du covoiturage de Lille, de Brest, de Marseille, de Paris pour venir à cette teuf parce que ça fait un mois et demi qu'elle a annoncé et tout le monde voulait y aller.
Sur les hauteurs, on voit les jeunes marcher dans les champs d'orge pour rejoindre la rave party. Dans sa ferme, Patrice les regarde passer depuis la fenêtre de sa cuisine.
5h30, ça m'a réveillé, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit, mais ils sont fous, ils pourraient... On s'en fiche, mais qu'ils la mettent moins forte, la musique. Et après, j'ai vu les gendarmes, ils avaient ceinturé le village. J'ai dit, pauvre, c'est Poutine qui est arrivé ou quoi?
L'éleveur à la retraite s'inquiète pour les jeunes teufeurs. L'ancienne mine est remplie de déchets toxiques.
C'est l'endroit où il y avait le déchet des mines d'or. Si c'est de la tourbe, ils peuvent passer entre. Et en plus, il y a du cyanure, du mercure, du radon. Moi, j'y vais pas, parce que quand j'ai voulu y aller travailler, ça me brûlait les yeux, donc il y avait une raison.
Le grand portail en fer du site a été forcé. Sur les grilles, on peut encore lire « risque de noyade ».
Et pour le moment, les gendarmes sur place n'ont procédé à aucune interpellation. Nantes retrouve enfin les habits glorieux de sa gloire d'antan. Ce club de foot historique gagne hier la Coupe de France au détriment de l'OGC Nice. 22 ans après avoir remporté pour la dernière fois ce trophée, les Canaries gagnent 1-0 sur pénalty. Début des festivités à 17h à Nantes pour le retour des champions. Émotion et grand frisson aussi en rugby. Hier à Dublin, le Stade Toulousain sort le Munster de Coupe d'Europe et se qualifie pour les demi-finales. Un scénario totalement fou et rarissime. Le match s'est terminé au tir au but à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Julien Balidas.
Un match nul et comme les deux équipes ont inscrit 3 essais chacune, impossible de les départager. Il a donc fallu désigner 3 tireurs pour 3 pénalités sur la ligne des 22, en face pour Antoine Dupont, à gauche pour Romain Ntamack et à droite pour Thomas Ramos. Puis derrière, 3 autres pénalités sur la ligne des 40. Romain Ntamack a levé les bras un peu tôt après la première salve sur les 22, pas du tout habitué à ce genre de scénario.
Je savais que c'était sur les côtés, mais je croyais que c'était les 3 premiers coups de pied et en fonction de ces 3 premiers-là, ça on allait ensuite sur les 40, mais apparemment non, parce que quand j'ai levé les bras, j'ai vu que tout le monde, personne ne bougeait, donc j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis surtout du Munster, parce que je croyais que c'était fini, donc je me suis excusé auprès des joueurs à la fin, mais c'est anecdotique.
Finalement, sans conséquence, les Irlandais ratent 3 de leurs coups de pied, 100% pour le Stade Toulousain, qui n'a même pas eu besoin de terminer la séance. Toulouse, qui se qualifie pour sa 4e demi-finale de Coupe d'Europe d'affilée.
Et de son côté, La Rochelle s'est qualifiée pour les demi-finales de Coupe d'Europe hier également, en écartant Montpellier.
C'était le journal d'Elie Abergel. Le temps.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Avec des éclaircies aujourd'hui dans toutes les régions, Jean-Michel Golinski.
C'est vrai, mais elles seront quand même plus larges et durables de la Bourgogne au Limousin et sur la Nouvelle-Aquitaine. De part et d'autre, l'ambiance sera plus variable avec des averses à prévoir dans la partie sud. Une instabilité toujours nettement plus marquée à l'est du Rhône et même parfois orageuse en montagne en seconde partie de journée. Dans la moitié nord, des éclaircies vont succéder au ciel bien gris des premières heures avec un temps souvent plus dégagé près des côtes. Et un risque d'ondées cet après-midi pour le centre, Champagne-Ardenne et le bassin parisien, dans des températures maximales de 21 à 25 degrés du nord vers le sud, des valeurs quand même plus basses à prévoir sur le Pays basque et près de la Manche, généralement entre 16 et 18 degrés.
Jean-Michel Golinski, Météo France.